Au Japon, quand une céramique est cassée, au lieu de la mettre au rebut, les brèches sont agrandies et sont réparées avec une laque saupoudrée d'or. Les brèches deviennent alors incassables et embellissent la céramique originelle. Ce processus artisanal ancestral s'appelle le kintsugi. Kintsugi, c'est aussi le nom de l'association créée par Constance Hamel. Une structure qui vise à informer, accompagner les personnes touchées de près ou de loin par la maladie. La maladie, Constance la connaît bien, depuis qu'elle a touché son fils Martin il y a un peu plus d'un an. Et c'est parce qu'elle a mesuré l'importance de l'accompagnement durant ses mois de combat contre le cancer qu'elle a décidé aujourd'hui de créer la vie Kintsugi. C'est l'histoire d'une femme qui croit que la maladie et les accidents ont un sens et qu'ils n'arrivent pas par hasard. L'histoire d'une mère qui, pour répondre à la fatalité, a choisi la bienveillance. Bonjour Constance.
Bonjour.
Et merci d'être là pour ce podcast.
Merci à toi de m'accueillir.
Alors, comme je le disais un peu en introduction, ta vie a été chamboulée il y a un peu plus d'un an. Donc ça a ouvert la porte d'une nouvelle existence, pour le meilleur et pour le pire, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en décembre 2016 ?
Bien sûr. début décembre 2016, Martin revenait à la maison pour passer un week-end d'étudiant. Et il m'interpelle en me disant « Maman, je dors plus la nuit, j'ai mal à la jambe, je crois que j'ai une bosse, est-ce que tu peux regarder ?» Je regarde la bosse et je dis « Bah oui, mon cœur, évidemment, t'as une bosse, on va aux urgences tout de suite. » Il me dit « Non, j'ai mes partiels à préparer, j'irai chez le médecin tranquillement la semaine prochaine. » Et moi, je donnais une formation dans mon ancien job, donc je me dis « Bon, ok, il ira tout seul la semaine prochaine. » Et puis chaque jour, je le relançais dans la semaine pour savoir s'il était allé chez le médecin. Et vendredi, alors que je pensais plus du tout à ça, il m'appelle à 18h en me disant « Maman, j'ai une tumeur ». Et alors, évidemment, j'éclate de rire, en mode « Mais arrête de dire n'importe quoi, dis-moi ce que tu as vraiment ». Il dit « Maman, j'ai une tumeur ». Je dis « Sois sérieux, dis-moi ce que tu as vraiment. Maman, j'ai une tumeur. Le médecin m'a dit « J'ai une tumeur ». Je lui ai demandé effectivement de me dire où il avait fait cette IRM. J'ai contacté le médecin qui m'a confirmé que le dossier était très sensible, qu'il avait envoyé le dossier au CHR de Lille et qu'il fallait suivre ça de très près.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une mère quand une nouvelle pareille tombe ? C'est l'anéantissement, c'est le choc ou c'est tout de suite l'envie de réagir ?
Bah, sur l'instant, en même temps qu'il me parlait, je pleurais. Ouais. Parce que, voilà, mais bon, ça, c'est aussi ma nature de pleurer comme de rire. Ouais. Et puis, en fait, je crois que j'ai réalisé tout de suite que c'était grave en ayant eu le médecin. Donc, j'ai appelé tout de suite une amie qui fait du décodage biologique pour qu'elle me dise d'où pouvait venir, quel lien pouvait y avoir entre une tumeur dans la jambe et le conflit émotionnel qui en aurait été à l'origine. Et le soir, j'étais toute seule chez moi, j'ai appelé une amie qui était chez elle également pour pleurer, vider mon sac, etc. Et j'ai également appelé un ami médecin à qui j'ai demandé d'aller voir l'IRM, qui m'a rappelé le lendemain et qui là m'a dit « La tumeur est évidemment cancéreuse, elle est complètement nécrosée, elle fait 16 cm, l'os n'est pas touché, mais prépare-toi au pire ». Donc là, c'est là que j'ai vraiment été... Là, j'ai hurlé dans le jardin. J'ai vu mon fils dans son cercueil. J'ai pleuré. Enfin, j'ai plein de termes pour dire une éponge à larmes, un zombie.
Il y a ce moment un peu indispensable où il faut...
Je crois que j'ai hurlé comme j'ai jamais hurlé de ma vie. Et puis après, je me suis prostrée dans un canapé. J'ai regardé Grease. En pleurant.
Ça fait toujours du bien.
Voilà, c'est ça. Et je pleurais en même temps. Et puis voilà, le soir, une de mes amies qui habite Reims, je l'ai prévenue. Et puis elle est venue tout de suite. Et puis là, on a regardé un air de famille. Ensemble, en pleurant et en riant. Et puis en fait, non, en fait, très très vite, tout s'est mélangé. Les larmes, l'horreur et bizarrement l'humanité. Le lendemain, j'ai prévenu mes meilleures amies. En leur disant « Martin a un cancer et je vais avoir besoin de vous ». J'ai prévenu aussi la mère du meilleur ami de Martin pour qu'elle se prépare à accueillir la souffrance de son fils. Ils étaient comme deux frères à ce moment-là. Et puis le lundi matin, j'ai rappelé l'ami Vincent en lui disant « Dis-moi que tu t'es trompée ». Et lui aussi était en larmes, en mode non, je crois que je ne me suis pas trompée, mais je préférais mille fois m'être trompée. Et là, j'ai commencé le branle-bas de combat, d'appeler tous les hôpitaux, les médecins, le directeur de l'école de Martin, lui disant Martin va être très malade, il va manquer l'école. Il avait prévu de partir en Argentine l'année prochaine, promettez-moi de lui garder ce rêve-là. C'est important qu'il ait des projets à court, moyen et long terme. Mais en fait, très vite, je me suis mis dans une logique de il faut lui trouver les meilleurs médecins. Ça ne veut pas dire un bon médecin, ça veut dire un médecin qui soit bon pour la spécialité de Martin, pour communiquer avec Martin. C'était lui trouver des thérapeutes qui apaisent sa douleur au quotidien et qui lui permettent de tenir dans la durée. C'était l'aider à comprendre le sens de sa maladie, pourquoi lui, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie, qu'est-ce qui pourrait faire changer dans sa vie et quels pouvaient être ses projets à court, moyen et long terme. Et aussi tout mettre en œuvre pour qu'il ait des paillettes dans les yeux, parce que quand on a des paillettes dans les yeux, on est heureux de vivre au quotidien et donc ça peut favoriser la guérison aussi. Enfin, ça, c'est ma conviction.
En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça a été vraiment un branle-bas de combat, à la fois pour combattre la maladie, mais plus largement, finalement, pour la comprendre et pour l'entourer. Enfin, il y a une réaction qui est normale, c'est d'aller chercher les bons médecins, etc. Mais c'est assez quand même rare d'avoir cette présence d'esprit, déjà de prévoir l'après, d'appeler le directeur de l'école pour parler du voyage à faire dans un an. Enfin, tu t'es quand même très vite projetée aussi quand même dans quelque chose d'assez positif finalement.
Bah, ce que je me suis dit, c'est que si je voulais qu'il se batte, et il fallait qu'il ait envie de vivre. Pour qu'il ait envie de vivre, il fallait qu'il y ait des petites choses sur son parcours de vie, des petites choses dans le quotidien, mais aussi des grandes choses à moyen terme. Donc très vite, c'est pareil, j'ai fait faire ces bracelets We All Fuck Étienne.
Donc Étienne, c'est qui Étienne?
Étienne incarne des personnages de l'enfance de Martin et de son amoureuse Solène. Pour Martin, Étienne, c'est un élève de sa classe qui était toujours un peu collant et jamais à sa place. Et pour Solène, Étienne incarne le chef Fayon, le petit chef Fayon, cadre moyen, pénible, quoi, qui est toujours en quête d'autorité et d'autoritarisme surtout.
Et donc Étienne, c'est devenu le nom de la tumeur.
C'est devenu le nom de la tumeur et c'était quelque part assez bien de distinguer la tumeur de Martin pour qu'il ne se résume pas à une tumeur.
C'est très intéressant. Ouais. Mmh.
Voilà, donc très vite on a reçu les petits bracelets. J'ai organisé assez vite une soirée, mon anniversaire arrivait 15 jours après, j'ai organisé une soirée We All Fuck Étienne où on était tous déguisés en super-héros pour niquer Étienne. Et voilà, cette soirée, on devait être 15, finalement, on était 95. Il y a un espèce de mouvement humain qui s'est créé, qui était juste magique. Et en fait, toute cette maladie a été... Alors, on les a créés, évidemment, mais le fait de créer invite les autres à créer. Il y a une espèce de spirale positive qui s'est créée autour de We All Fuck Étienne. Ou de Martin, c'est toi le meilleur, quoi. Enfin, je sais pas.
Et Martin, il a tout de suite adhéré à tout ça, parce que c'est pareil, c'est pas toujours évident à cet âge-là, 19 ans, hein, c'est ça, il avait 19 ans quand c'est arrivé, un garçon de 19 ans, j'ai moi-même un fils de 17 ans, c'est pas toujours évident de le faire adhérer à cet optimisme, et il aurait pu tout à fait choisir, lui, la colère et se renfermer sur lui-même.
Je pense que naturellement, il a un tempérament plutôt joyeux, plutôt festif, qui correspond un peu à notre état d'esprit familial, enfin en tout cas depuis quelques années. Et au départ, il réalisait pas que c'était grave. Moi je lui ai dit 10 fois qu'il avait un cancer, il n'y croyait pas. Il y a cru quand le médecin lui a dit tu vas perdre tes cheveux et lui a annoncé le programme thérapeutique le 22 décembre. Donc lui, il avait rien. Il était persuadé le jour où le médecin lui a annoncé qu'il avait un cancer. Enfin, il ne lui a même pas prononcé le mot cancer. Il lui a dit qu'il allait faire de la chimio. Et en sortant, il m'a dit « Mais j'étais sûre que tu allais devoir appeler tout le monde en leur disant que tu t'étais emballé comme d'habitude et qu'en fait, j'avais rien. » Donc, il était, je pense, dans le déni. Et du coup, il trouvait ça génial. Parce que son père et moi, on dînait ensemble. Son père et moi, on l'accompagnait à l'hôpital. Donc, il trouvait ça super que toute la famille soit réunie, ce qu'elle n'avait pas été depuis 5 ans, il faut bien le dire. Et il trouvait ça plutôt sympa d'avoir des parents présents qui se mobilisaient pour lui. Il a fait l'expérience de ça et ça a été une expérience positive pour lui.
D'accord.
Et après, de voir tout ce monde qui se mobilisait, il s'est un peu laissé porter aussi. Et puis voilà. En fait, dans la mobilisation, c'était ses amis, mes amis, les enfants de mes amis qui sont également ses amis, puisqu'ils les connaissent depuis sa plus tendre enfance. Donc c'était quelque part que des gens qu'ils connaissaient. Et en tout cas au début, et voilà, il s'est aussi laissé porter par ça. Et ce qu'il exprime à la fin, puisqu'on a fait une deuxième grosse soirée en juillet, où là il y avait 120 personnes qui se sont déplacées dans le sud de la France. Je l'ai interviewé juste pour mon site internet juste après cette soirée, et il me dit en fait, tout au long de la maladie, j'ai reçu une énergie dont je ne peux pas dire d'où elle vient, mais qui est là et qui me soutient. Et cette énergie, c'est peut-être des prières, c'est peut-être des pensées, c'est peut-être elle vient de personnes que je ne connais pas, mais je la reçois et c'est pour ces gens-là que je me bats et c'est pour eux que je me bats aussi. C'est pour moi et aussi pour tous ces gens-là qui me portent et je sens qu'ils me portent. Et ça, pour un garçon qui est très scientifique, je trouve ça assez spirituel.
En effet, c'est un message qui est magnifique et qui en même temps vaut vraiment la peine d'être relayé parce que ça montre qu'il n'y a pas de petits gestes, d'attention inutile, tout ce qu'on fait pour entourer quelqu'un qui souffre d'une maladie comme celle-là compte en fin de compte.
Mais c'est ce que je pourrais dire. Moi, j'ai découvert l'humanité. J'ai vraiment découvert l'humanité. Et je peux te garantir qu'elle est belle. Parce que j'étais construite en mode débrouille-toi toute seule, fais ta vie, gagne ta vie, débrouille-toi, assume pour deux générations, etc. Et puis en fait, là, je me suis retrouvée complètement démunie, sans job, sans énergie, sans temps. Et en fait, l'amour, les mots, les gestes, les attentions, j'ai des amis qui sont venus avec un panier de courses, j'ai des amis qui sont venus avec un panier de fruits, j'ai des amis qui ont lancé des cagnottes, j'ai des amis qui, ou pas des amis, ou de la famille qui a témoigné sa présence. C'est, même si je n'avais pas l'énergie ni le temps de répondre à tout dans les moments vraiment importants de la maladie, j'ai reçu tout ça et Martin a reçu tout ça aussi.
Et ça a compté.
Et ça a compté énormément. Il y avait un groupe, il y a eu deux groupes Messenger, un Let's Fuck Etienne pour la soirée du 27 décembre et un pour la Maison du Sud Party, donc c'était la soirée du 14 juillet. Et dans ces deux groupes-là, quand Martin a été amputé, tout le monde était envoyé des messages à Martin. Et Martin, d'ailleurs, nous a tous émus aux larmes, et moi la première, quand le lendemain de l'amputation, il a écrit à tout le monde « Merci infiniment pour vos messages. Ma jambe gauche est d'autant plus belle qu'elle n'a plus de voisine. Je vous invite à venir la voir très rapidement. » Et ça, voilà, c'était cadeau, quoi. C'est cadeau, et puis du coup, on était 95 à communiquer, et puis il n'y avait pas de génération. Il y avait les gens qui étaient sur ce groupe allaient de 12 à 80 ans, quoi.
Ça,
c'est génial.
Et donc, Martin est passé donc, par des moments très difficiles, puisqu'en effet, tu viens de l'évoquer, il a perdu sa jambe. Mmh. Et les traitements ont été, j'imagine, aussi assez douloureux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il va mieux, on peut dire qu'il est en rémission, c'est ça ?
Oui, depuis
le terme consacré.
C'est ça. Après la chimio qui n'a pas marché, l'amputation, l'immunothérapie, des prélèvements, puisqu'il y a eu des complications, la radiothérapie. Le 11 janvier 2018, son médecin lui annonçait qu'il était en rémission complète et il n'y avait plus aucune trace de nodule dans son corps. Yalla.
Grosse fête, j'imagine, de nouveau.
Là, non, on sait plus. Non, alors ça, c'est très, très marrant.
C'est assez drôle. Les fêtes sont là pour les moments difficiles, en fait.
C'est ça. Quand on nous a annoncé le 20 février 2017 qu'il avait 10 nodules dans les poumons, on était 5 à la maison, il y a la musique à fond, jusqu'à 5 heures du matin, on a dansé, on a pété les plombs. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des bonnes nouvelles, on ne savait pas les gérer, quoi.
On décompense. Ouais.
Alors si, j'exagère. Il y a quand même eu une fête. On a brûlé les bracelets. On a fait des rituels indiens. On a brûlé les bracelets
chamanique.
Tous ensemble, exactement. Et on a bu du vin quand même. Mais c'est vrai qu'après, lui, il a repris sa vie. Et moi, j'ai eu un moment de décompression et je ne suis pas complètement remise. J'ai eu l'impression de le remettre au monde une deuxième fois, en fait.
Ouais, tout à fait.
Avec un petit baby blues.
À quel moment tu as senti que cette histoire pouvait pas s'arrêter là, quelque part, hein? J'ai l'impression que c'est une espèce de prolongation ou de naturel de tout ce que tu as vécu. Il a fallu peut-être faire fructifier cette énergie dont tu parles, que tu as reçue.
Ouais, la première fois que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je change de vie, c'était la veille de l'amputation. où, au cours d'une séance de magnétisme, la magnétiseur m'a fait partir dans un village chamanique, disant que c'était chez moi, etc., etc. J'ai adoré ce trip, d'ailleurs. Quand je me suis réveillée, il y a quelque chose qui avait changé en moi, lié à l'écriture, lié à l'accompagnement, lié à la prise de conscience aussi, que j'aimais les personnes en difficulté, j'aimais les malades, j'aimais accompagner une personne dans un moment dramatique de sa vie, et j'ai cherché à comprendre longtemps, et je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est que au moment où la personne est cassée comme une céramique japonaise, au moment où sa vie s'effondre, il y a comme un petit bourgeon sur une branche morte, il y a un petit soupçon, la personne devient vulnérable, elle devient vraie. Et c'est ce petit bourgeon qui sort de cette vulnérabilité qui peut redonner naissance à une nouvelle personne, parce qu'on change jamais fondamentalement, mais à une nouvelle vie, à un nouveau projet. Et c'est cette partie-là de la maladie que je trouve magnifique. Alors évidemment, je souhaite la maladie à personne, on est bien d'accord. Néanmoins, quand elle est là, faut faire avec. Et plutôt que de se victimiser, la regarder en se disant « bon, il y a peut-être un truc de positif à en tirer », je veux bien accompagner les personnes qui ont envie d'aller chercher ce petit truc positif pour redéfinir un nouveau projet de vie.
Et alors concrètement, ça veut dire que tu vas voir les gens, tu réponds à des demandes d'accompagnants, de familles, de personnes malades. Enfin, quels sont les services exactement que tu proposes avec cette association?
Eh bien, quand on est malade et qu'on vient de se prendre le choc, l'annonce du diagnostic et le programme thérapeutique, en général, on se dit que sa vie est finie et puis on n'a pas trop l'énergie de repenser sa vie. Donc l'idée de ce travail, en fait, c'est d'accueillir les personnes et de redéfinir, de regarder leur vie en fonction des 7 piliers que j'ai identifiés, à savoir la tribu, qui me semble essentielle pour la guérison. Donc c'est les amis, c'est la famille, c'est les collègues, c'est tout ce qui... Ou ça peut être les relations, ou ça peut même être des personnes inconnues qui, parce que vous vivez une difficulté, ont envie de venir vers vous. Ça peut aussi être un besoin de se recentrer, d'être seul, parce qu'on a toujours été entouré. Ça peut être plein de choses, mais c'est, voilà, c'est faire le point sur sa propre tribu, faire le point sur sa relation avec son médecin. Très souvent, le seul conseil que j'ai envie de donner à quelqu'un, c'est d'être 100% en confiance avec son médecin, c'est-à-dire de comprendre ses mots, d'adhérer à sa vision, que lui adhère à la vôtre, et que vous soyez en alliance totale. Parce que si vous êtes en alliance totale, vous allez pouvoir accepter son traitement. Alors que si vous êtes en défiance, vous aurez beaucoup de mal à avoir confiance en son traitement, au traitement qu'il propose. Et ça, c'est très ayurvédique comme vision. C'est aussi regarder sa relation au sport, le fait de marcher, pas marcher, le fait de courir, le fait d'avoir du muscle ou pas. C'est l'alimentation. L'alimentation, on sait tous qu'elle est responsable de 25% des cancers. Je ne parle pas des produits industriels, je ne parle pas des produits, des produits préparés, du sel, du sucre, qui ont un facteur aggravant et déclenchant des maladies. Puis le sens de la maladie, donc ce que je disais tout à l'heure, pourquoi cette maladie, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, mais aussi la spiritualité. Je ne parle pas de religion, parce que ça c'est très personnel, mais c'est vraiment d'être capable d'être aligné et d'être bien aligné entre son cœur, son corps, son esprit, prendre le temps de respirer, ça peut être la cohérence cardiaque également. C'est prendre conscience de son corps, au-delà du sport, au-delà de le pousser dans ses limites, c'est juste, voilà, j'ai ce corps-là, c'est mon enveloppe, c'est ma maison, est-ce que je suis bien dedans, et retrouver l'aisance dans mon corps. Et puis, c'est les médecines complémentaires. Et pour moi, les médecines complémentaires, elles ont deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'elles apaisent la douleur, au global, ou la fatigue, ou le bien-être. Elles apportent du bien-être et donc permettent de supporter les traitements au quotidien ou d'améliorer l'état de fatigue. Elles ont un deuxième atout, et c'est Martin qui me l'a fait remarquer, c'est que quand la médecine n'y croit plus, ou quand la médecine est dramatique, le fait de voir des thérapeutes en parallèle ou en complément de la médecine, sont d'autres références, sont d'autres personnes référentes qui connaissent votre corps différemment ou qui connaissent votre personne dans sa globalité, quand les médecins vont être plus focalisés sur la problématique médicale, et qui vont apporter une autre forme de réconfort. Et à plusieurs reprises, quand la médecine a été très peu encourageante quant à la guérison de Martin, et quand même à 3 ou 4 reprises, il a entendu qu'il ne vivrait pas, ces thérapeutes-là lui ont dit « si, il y a la vie en toi, crois-y, si tu as envie de vivre, tu vivras ». Et ça, autant pour lui que pour moi, ça a été incroyablement précieux, parce qu'on ne s'est pas dit « c'est fini ». On s'est dit, ok, on a entendu que c'était fini, mais il y en a d'autres qui y croient.
Et tant que c'est pas fini, c'est pas fini.
Et puis, t'es là. Et aujourd'hui, t'es là. Et ça, c'est précieux.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, maintenant que l'orage est un peu passé Il y a un livre peut-être qui sortira ou...
J'ai tenu un journal qui était totalement thérapeutique sur le moment, mais qui peut-être sortir un jour, j'en sais rien. Mais c'est surtout que... mon rêve, ce serait que toutes les personnes qui tombent malades n'entendent pas le diagnostic comme étant le pronostic, comme dit mon prof de PNL, mais si chaque malade pouvait se dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il est présent, tout est possible, que sa volonté profonde de vivre peut aussi influencer la guérison. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et surtout que la vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant.
Merci beaucoup, Constance.
C'est un plaisir.